Bonsoir Isabelle Condou.
Bonsoir.
Merci de venir à la rencontre du public bordelais ce soir. Alors, c'est peut-être un clin d'œil à votre jeunesse, à votre enfance, puisque vous étiez scolarisé en Gironde et que actuellement aussi vous êtes revenu vers la Gironde.
Oui, je vis actuellement en Gironde, oui.
Très bien. Et donc, nous avons avec ce quatrième roman, Un pays qui n'avait pas de port, la confirmation d'un véritable écrivain. Et je crois que désormais, vous vous consacrez entièrement à l'écriture.
Entièrement, non, malheureusement, j'aimerais, mais non, pas entièrement, partiellement seulement.
D'accord. En tout cas, le métier de scénariste que vous aviez entamé, vous l'avez laissé un peu de côté.
Oui, je l'ai, mais le métier de scénariste, je ne l'avais envisagé parce que je savais que la littérature ne permettait pas de vivre en général. Mais j'avais été prise à la formation de scénariste en disant, de toute façon, ce qui m'intéresse, c'est le roman. J'avais été très claire.
D'accord.
Ils m'en ont pas voulu.
Alors, après, il était disparu en 2004 et Solitude de l'aube en 2006 et surtout le roman qui vous a en quelque sorte imposé, La Périta, en 2009. Vous publiez depuis la fin août 2013 Un pays qui n'avait pas de port. Et quel est le fil conducteur entre ces quatre romans, s'il y en a un ?
La disparition, il y a toujours un disparu. En l'occurrence, dans ce roman, la nouveauté, c'est que le disparu est présent quasiment tout le temps. Mais il y a toujours un disparu.
Oui, effectivement, la disparition, l'absence et aussi la solitude, du coup.
La solitude, le deuil impossible. Oui. Dans celui-ci, c'est un petit peu plus complexe.
Oui.
Alors,
effectivement, c'est la vie sur un cargo qui nous est racontée. Je ne déflore pas le roman, j'espère. Et les personnages vivent ensemble et pourtant chacun est prisonnier un petit peu dans sa solitude.
Oui, mais cela dit, la vie à bord isole, que même si on est déjà soi-même un peu solitaire, la vie en mer et à bord d'un cargo notamment, mais je pense que ça vaut pour tous les bateaux, isole vraiment.
Oui. Oui. Il y a déjà l'isolement du bateau lui-même au milieu de l'océan.
Oui, tout à fait.
Parce que un personnage important aussi du roman, c'est la mer.
Oui,
la mer,
c'est même capital.
Voilà. Et la mer dans tous ses aspects, à la fois la liberté, le monde, l'espace, l'infini qu'elle représente, en tout cas à certains moments et en tout cas pour certains personnages, l'évasion, le refuge, dit Marek par exemple.
Le paradoxe quand on est au milieu de l'océan, c'est qu'on est coupé du monde et malgré tout... au centre du monde. On a vraiment le sentiment d'être dans le monde plus que jamais.
Oui.
Ouais.
Oui. Il y a une sorte d'inclusion fragile. Le bateau
est tellement, tout. C'est tellement vivant. C'est tellement... la vie est là, clairement.
C'est ça.
Donc on est au centre du monde, malgré tout.
Et cette densité, finalement, cette densité du bateau, on la ressent aussi dans la densité de l'écriture. Il y a cette intensité de la phrase.
Merci.
Qui est très frappante. Alors là, je vais ouvrir au hasard, je vais jouer le jeu. Il y a des extraits que j'ai préparés, mais là, pour juste montrer cette intensité, je pense qu'on peut prendre au hasard. La chute que fit le premier lieutenant aurait dû être le seul événement qui marqua ce jour-là d'une pierre blanche. Joséphine n'appréciait guère les entraînements aux procédures d'urgence qui ponctuaient chaque semaine et auxquelles même les passagers devaient se soumettre. On a tout de suite là un style très serré qui dit des choses à la fois de manière réaliste sur les contraintes de la vie à bord et en même temps de manière psychologique, affective, sur les personnages, en l'occurrence là, Joséphine. Et il y a quelque chose de très subtil, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une description presque objective, presque journalistique. Par moments, le roman me faisait penser à Florence Aubenas.
Tant mieux, je vous remercie.
Oui, oui. Et en même temps... On est dans le point de vue du personnage, mais d'une manière presque indirecte. C'est-à-dire que les choses sont vues comme tout le monde pourrait les voir, et pourtant on se rend compte, et souvent après, et là c'est le cas, après, on comprend que c'est la manière de voir de Joséphine.
Oui, oui. L'histoire est racontée entièrement du point de vue des trois personnages.
Oui.
Chacun leur tour. Enfin,
voilà, chacun leur tour avec un montage très complexe.
Hein. Relativement, oui.
Et c'est pour ça que je voyais la scénariste aussi, ouais. Parce qu'on a parlé de l'intensité dramatique de ce roman, et on a l'impression finalement, vos talents de scénariste, vous les avez réinvestis dans ce quatrième roman.
J'espère que j'ai plus de talent, ceci dit, pour écrire des romans que des scénarios, au regard de mes expériences diverses. Mais le challenge de ce roman, pour moi, hein, en tant qu'auteur, c'était vraiment de pouvoir traiter les trois points de vue dans un même chapitre, j'ai envie de dire, puisque le roman précédent, je traitais deux points de vue, mais c'était chaque chapitre traitait un seul point de vue. Là, je n'avais jamais fait ça avant. C'était le challenge que je m'étais posé pour ce texte-là.
Oui, et ce sont des personnages très différents, puisqu'il y a en quelque sorte une touriste, enfin... Une ancienne hôtesse de l'air qui fait un voyage d'évasion, en fait. Hein. Il existe quelques cabines sur les cargos. En l'occurrence, là, il n'y en a que deux. L'autre, on ne s'occupe pas tellement du Hollandais.
Oui.
Hein, on le laisse
de côté.
Voilà. Mais il participe à la vie du bord et à cette espèce de, à la fois de cloisonnement et de promiscuité qui fait la vie du bord. Et puis les deux autres, eh bien, il y a le capitaine qui a une vie intérieure très intense et qui est dans un dilemme moral pratiquement dès l'apparition du clandestin de bout en bout et qui est très attachant à cause de ça entre autres puis à cause aussi de son âge, du fait qu'il revient un petit peu sur sa vie passée, sur le couple dont il doute beaucoup, etc. Enfin, il y a beaucoup d'entrées dans le personnage qui le rendent attachant et qui font qu'on peut s'identifier à lui. Et puis il y a le mécanicien, alors là, c'est une autre trempe d'homme.
Oui.
C'est peut-être plus difficile d'entrer dans ce personnage, ou en tout cas d'établir un lien fort avec lui. Et pourtant, vous y arrivez.
Oui, c'est-à-dire que c'est mon préféré, hein, je ne vais pas vous le cacher très longtemps. Donc j'espère que j'y suis arrivée. Mais c'est vrai que, enfin, cela dit, pour les trois personnages, je reviens sur leur histoire.
Oui. Et même leurs parents.
Leur vie, enfin, par tranche. Le but étant de montrer la part solaire, on va dire, même si leur histoire n'est pas simple, de chaque personnage, puisqu'ensuite on bascule dans quelque chose qui va se révéler beaucoup plus noir. Ils vont se révéler beaucoup plus noir que ce qu'ils semblaient être a priori. Puisque j'essaye dans ce texte de parler de la part monstrueuse qu'on peut avoir chacun d'entre nous à certains moments. Et d'une part qui est souvent inconsciente d'ailleurs, mais qui peut avoir des conséquences sur autrui, en l'occurrence quand c'est quelqu'un surtout qu'on a tendance à mépriser parce qu'il n'a pas les mêmes droits que nous, il ne vient pas du même endroit que nous, ce genre de choses. Et je crois qu'on est tous un petit peu comme ça. Mais pour donner à voir ça de mes personnages, s'ils sont noirs de bout en bout, ça ne fonctionne pas. Donc les tranches de leur vie que je raconte ont pour but de mettre en lumière quelque chose d'eux qui est beaucoup plus positif, même si ce n'est pas forcément rigolo. Voilà.
Oui. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un critique, c'était dans l'Express, un roman d'une intensité mélancolique qui appuie en douceur là où ça fait mal. Et je trouve que c'est assez juste comme commentaire, même si je dirais qu'il y a beaucoup de dureté dans votre plume, parce que vous allez quand même sous la peau, quoi. Et beaucoup d'apparences sont mises à nu, enfin sont traquées presque, traquées pour déloger justement les faux semblants, ce qu'on se raconte à soi-même, la bonne conscience, des choses qui ne tiennent pas la route, c'est le cas de le dire.
Oui, et puis ce sentiment qu'on a souvent d'être quelqu'un de bien. Et se dire, si moi j'avais traversé ça, quand on parle, je sais pas, de choses comme l'occupation, on est tous persuadés qu'on n'aurait pas été collabos, a priori.
Oui, là,
réalité...
Le mythe gaulliste a bien fonctionné là-dessus.
Nous aurions quelques surprises, je pense. Et cela dit, j'abordais quand même déjà la question de cette forme de monstruosité-là dans mon texte précédent.
Oui, la Fiorita.
Puisque c'était plus évident, puisque ça parlait de la dictature argentine. Mais le fait est que... Je pense qu'on est beaucoup moins bien que ce qu'on prétend. Et l'humain, en soi, n'est pas quelque chose de positif, je ne pense pas.
Ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a des élans de générosité, mais que quand il faut assumer les conséquences de ces élans, on voit toute la superficialité ou toute la lâcheté, finalement,
oui, et puis
de chacun.
Et puis, entre se dire, en théorie, « Ah, je vais aider quelqu'un », qui est vraiment dans une situation, c'est une question de vie ou de mort, là, quand même, hein, plus ou moins. Du moins, au début, un peu moins, mais... entre se dire, je vais l'aider, je vais le sauver, et faire ce qu'il faut. Mais aider quelqu'un, ça suppose donner quelque chose de soi, ne serait-ce que de son temps, mais parfois plus que ça.
Oui.
Et entre l'idée de faire et le faire... c'est pas tout à fait la même chose. Et quand il s'agit de prendre un peu de soi, d'occulter, ça s'avère moins évident.
Oui. De soi et aussi de son espace, parce qu'il y a eu aussi
de son espace.
La question
bon, là,
de l'espace,
ouais,
vital,
ouais.
Presque.
Tout à fait.
Le cloisonnement extrême, les cabines. Et donc, quand il faut cacher quelqu'un, accueillir quelqu'un, nourrir quelqu'un, vêtir quelqu'un, etc., ça devient très concret.
Hein, et ça devient très concret.
C'est ce côté concret que vous montrez de manière assez impitoyable.
Oui, mais cela dit, c'est très subjectif, hein, ce que je vais dire, mais je pense que... très humblement, là, parce que je n'aurais pas la prétention de dire que mon texte met en lumière ça, mais tout de même, je pense que ce que font mes personnages, les États des pays occidentaux se comportent plus ou moins de la même façon. Quand il y a une catastrophe naturelle ou autre, allons-y, aidons-les, notamment Haïti, puisqu'il en est question dans mon texte. Mais une fois l'effet médiatique de la catastrophe passé... qui se soucie d'Haïti aujourd'hui, c'est du même ordre, oui. Malgré tout. Ça reflète quand même le mépris que l'on a pour les gens qu'on considère comme valant moins que nous, je pense.
Oui.
C'est là. Il est évident que si le clandestin était un Américain qui tentait de rejoindre son pays, ça finirait pas du tout de la même façon. Il y a quand même la question de d'où il vient,
oui, tout à fait.
Qui s'impose.
Et toujours dans cette veine réaliste, en fait, hein, qui regarde en face les problèmes et qui les dénonce, hein, d'où la parenté, finalement, avec une écriture journalistique. Vous avez aussi donné à Marek la mission de regarder en face... les problèmes du monde, en quelque sorte, ou en tout cas les problèmes des marins, hein, l'exploitation des marins par les marins ou par le système, est vraiment résumé, hein, de manière extrêmement dense. Là aussi, je lis un passage. Hein. Marek contemplait impuissant les dérives qui poussaient son espèce à l'agonie, car depuis longtemps, pour sabrer encore le salaire des marins, et prendre davantage de dividendes, les armateurs avaient pris la fâcheuse habitude d'immatriculer leurs navires dans des pays où le droit du travail était aussi inexistant que les ports capables d'accueillir un cargo comme le Punta Clara, de sorte qu'à naviguer sous pavillon fantoche, les marins français finissaient par toucher un salaire de polonais, les polacs celui d'un philippin, les philippins gagnaient la solde d'un chinois, les chinois prenaient ce qu'on voulait bien leur donner, et les noirs n'avaient plus qu'à continuer d'embarquer clandestinement, direction l'Europe, dans l'espoir que leurs enfants obtiendraient un jour un passeport qui les enverrait tout en haut de la chaîne, à savoir marins français, allemands ou anglais. Beaucoup de choses sont dites là. Hein.
Oui.
Et c'est intéressant.
C'est une réalité. Hein.
Exactement.
C'est une réalité. Malheureusement, c'est aussi une réalité, puisque je suis partie de là, hein, que certains clandestins sont jetés par-dessus bord par des équipages. C'est arrivé et ça arrivera encore, malheureusement. Mais il faut savoir quand même que ces gens-là subissent des pressions particulières. La complexité des lois... territoriales, des eaux territoriales internationales, des droits de l'homme, etc., les met dans des situations, plus la pression des compagnies, hein, pour lesquelles, puisque
exactement,
le temps est compté excessivement,
le retard, voilà,
c'est épouvantable. C'est vrai qu'ils subissent des pressions terribles, ouais, qui, pour les moins scrupuleux, les poussent à ce genre d'actes, je suppose. Ouais. Heureusement, c'est pas la majorité quand même, mais ça arrive. Oui. Et oui, Marek représente un peu cette phase-là, mais finalement ne s'avérera pas pire que les autres.
Non, au contraire. Hein.
Donc, mais le fait est que j'avais besoin d'un personnage qui allait un peu contredire les bonnes intentions des autres.
Oui, des autres qui apparaissent plus civilisés au départ.
Oui, tout à fait. Tout comme aussi, j'avais besoin d'un personnage. Vous parliez du fait qu'il y avait deux passagers à bord, et le passager masculin n'est pas très sympathique, en l'occurrence, dans mon texte. La raison était simple à cela, c'est que j'avais besoin d'une femme, parce que je ne voulais pas que ce texte soit un texte à charge des marins, ni même des hommes. Je voulais vraiment que les femmes soient comprises dans ce que je dis de l'humain.
Et l'hommage aux marins dans la bouche d'une femme, parce qu'il y a ça aussi chez Joséphine.
Oui, oui. Alors là, c'est vrai que cela dit, elle m'a permis de dire, enfin, très franchement, puisque j'ai fait le voyage, hein, j'ai rencontré des hommes magnifiques, ouais, vraiment exceptionnels, je dirais.
Oui, oui, on le sent. Il y a vraiment un enthousiasme chez Joséphine sur l'attitude des hommes à son égard, hein, sur le plateau, puisqu'elle est la seule femme et qu'après tout, ils sont partis pour très longtemps. Et ils sont d'une parfaite courtoisie.
Ce qui est absolument correction. Vrai. Mais il y a énormément de femmes aujourd'hui, hein, qui voyagent à bord de cargo. Ouais. Pas mal de retraités et pas mal de femmes aussi. Mmh. Essentiellement, ouais, des femmes.
Ce qui est dit aussi avec beaucoup de lucidité et de force, c'est l'état de la mer, justement. On disait que la mer était un personnage, hein, du roman. Et c'est dans la bouche, enfin en tout cas dans la pensée de Joséphine, dans son flux de pensée, hein, qu'est placée la dénonciation de la pollution des mers. Hein. Je cite un petit passage, page 132. « Depuis le matin, Joséphine le contemplait, abasourdie. L'Atlantique, lui, ne cachait pas sa rage. L'agitation de la houle lui faisait souvent le teint pâle et ingrat, et cet aspect juvénile donnait le sentiment qu'il pouvait être tendre. Tandis que là, sa masse tranquille donnait au Pacifique un caractère féroce. Et baigné par un soleil éclatant, il brandissait le visage de l'absolu, d'une beauté d'autant plus stupéfiante qu'il portait la souillure de l'homme. Pareil aux taches de la vérole, des plaques de détritus dérivaient au gré du courant sous le nez du navire. » Bouteilles en plastique, chaussures de plastique, sacs en plastique, dansant comme des méduses, cordes synthétiques, jouets en plastique, bouchons en plastique, boîtes en plastique, des morceaux de tous les genres, de toutes les tailles, parmi lesquels brillait une rivale de choix, la canette de coca ou de bière, etc. Donc, là aussi...
Non, mais c'est une réalité.
Oui, oui, on parle même du sixième continent. Je ne sais pas si vous l'avez croisé.
Saisie. On en a vu des images de ça, hein, cette année. Je ne sais plus si c'est cet été ou avant l'été. C'est très impressionnant. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Parce que le Pacifique, quand on y arrive, c'est magnifique. Enfin, là, il faisait très beau, puisque c'était février-mars. Très, très beau, très calme et tout. Et d'un coup, on voit ces horreurs. C'est des hectares qui recouvrent l'eau. C'est très impressionnant. Ouais. Et au milieu, il y a des dauphins qui passent. C'est épouvantable. On se sent honteux. Franchement, là, c'était très choquant.
Oui, tout à fait. Et on fait le lien ensuite entre ce qu'on jette sur les plages ou ce qu'on oublie sur la plage et puis ce sixième continent qui se forme de manière implacable.
Oui, oui, c'est très impressionnant, vraiment. Ça devrait presque être obligatoire pour tout le monde d'aller se promener un peu au large pour qu'on prenne la mesure de ce qu'on est en train de faire, parce que c'est très éloquent.
Oui, tout à fait. Et alors, la question de la culpabilité, elle traverse aussi ce roman, mais pas que celui-là, hein, les autres également. Les bébés volés, c'est peut-être le cas extrême, hein, que vous avez traité dans le roman précédent, mais là aussi, bien sûr, le sort d'un clandestin qu'on est tenté de balancer à la mer parce que ce serait tellement plus simple, hein, et puis que la mer se referme sur lui et la mémoire aussi. Mais en fait, ce n'est pas possible. Enfin, en tout cas, ce n'est pas comme ça que les choses
non, c'était pas
peuvent se résoudre.
Quand j'ai eu l'idée du projet, en fait, puisque ça s'inspirait d'une histoire où des clandestins avaient été balancés par-dessus bord, le problème, c'est que ça ne m'intéressait pas de traiter la chose de cette façon-là. Un meurtre sommaire comme ça, exécuté. J'avais rien à dire sur des gens comme ça qui sont capables de faire ça. Enfin, pour l'instant, je n'avais rien à dire, en tout cas. Toujours pas d'ailleurs. Enfin, ça ne m'inspire pas l'envie d'écrire un texte là-dessus. Puisque, quand même, mes personnages, je m'y attache. Donc, mais par contre, je me suis dit, bon, puisque cet aspect-là ne m'intéresse pas, qu'est-ce qui m'intéresse ? Moi, là-dedans, qu'est-ce que j'ai envie de raconter ? Donc, le fait est que de raconter l'histoire de gens qui se persuadent qu'ils veulent sauver quelqu'un, mais qui ne le font pas. Donc, en fait, l'histoire, c'est pas qu'ils vont tuer un homme, c'est qu'ils ne veulent pas le sauver. Alors, ça revient un petit peu au même, et pourtant, ça change tout.
Oui, oui, il n'y a que dans les dernières pages où vraiment... tuer, le mot tuer apparaît, où vraiment la conscience ne se raconte plus d'histoire.
Ou difficilement.
Ou difficilement. Exactement. Et alors, ce personnage de Marek, il peut avoir l'air dangereux au début, et en tout cas, il paraît moins raffiné, hein, que les autres,
moins,
bien sûr. En même temps, il est, si on peut dire, plus franc du collier. Il peut être colérique. Il y a par exemple cette scène, il y a plusieurs scènes, hein, où il s'affronte avec le capitaine. Hein. Mais lorsqu'il a une arme à la main, en l'occurrence une fourchette ou un couteau de table, ça peut, enfin, le lecteur peut redouter une explosion de colère et un geste inconsidéré, mais en fait il se contrôle. Et il y a un passage assez amusant qui peint aussi assez bien, je trouve, à la fois l'apparence et la réalité de ce personnage de Marek. L'air de manger avec appétit sa tranche de bœuf qui ne saignait même pas, Marek ne quittait pas des yeux la fiole de vinaigre dont le goulot béant exhalait une haleine irritante tandis que le capitaine continuait de marteler joyeusement la table avec le bouchon. Le son creux et convulsif du liège propageait une douleur aiguë dans ses oreilles, pourtant rompue à la furie des machines. De sorte qu'à chaque bouchée de viande, Marek refermait ses dents sur le métal de sa fourchette pour réprimer l'envie croissante de la planter dans la main du chameau qui flattait les passagers de sa conversation. Voilà, on a tout un tableau là et tout un jeu de rapports qui ne sont pas ce qu'on pense, hein, en fait. Il y a beaucoup de malentendus dont le lecteur, lui, est complice. Vous jouez aussi beaucoup sur ces niveaux de complicité entre ce que c'est le personnage ou ce qu'il ignore et ce que c'est le lecteur. Hein. Donc il y a tout un jeu qui est assez jubilatoire pour le lecteur, puisqu'en général, on en sait plus que le personnage et du coup, on le regarde s'enferrer dans ses malentendus, dans ses illusions, jusqu'à ce qu'il soit détrompé par la suite du roman.
Oui, puis l'intérêt... je trouve de traiter les personnages à travers leur point de vue, ou de traiter l'histoire à travers le point de vue de raconter l'histoire plutôt, à travers le point de vue des personnages, c'est que ça permet de faire apparaître l'inconscient des personnages sans avoir à l'expliciter. Oui.
Oui.
Sans avoir à l'exprimer. Si je suis narratrice ou narrateur omniscient, je vais expliquer l'inconscient du personnage. Ça n'a pas grand intérêt.
Comme disait Balzac, et voici pourquoi.
Voilà. Donc effectivement, traiter le point de vue du personnage a cet intérêt-là.
Oui. Oui. Toujours sur les apparences et ce que révèlent finalement les hommes, hein, au détour, hein, d'un événement ou d'un chapitre, c'est intéressant de voir que, en fait, ce que l'on croyait du personnage est toujours remis en question et approfondi par la lecture. Hein. C'est aussi, je crois, une démarche, une dynamique du roman, que les personnages sont plantés, puis après, ils sont revisités, et souvent à contre-pied, par rapport à, à l'idée qu'on s'était faite, un peu trop vite, du personnage.
Oui, on est comme ça en général. Enfin, je crois.
Oui, alors là aussi, ça donne une impression de réalité très très forte. Hein. Ça joue aussi sur l'intensité du roman.
Je pense qu'on est comme ça, c'est-à-dire que même les gens, enfin nous, les autres, on croit les connaître, on croit être comme ceci ou comme cela, on croit penser comme ci ou comme ça. Des fois, on fait tout le contraire. C'est absolument incompréhensible, a priori, mais, oui. Mais si on creuse, ça révèle beaucoup de choses.
Oui, tout à fait. Et donc, ce jeu des apparences et de ce qu'il y a sous la peau, en somme, ou dans les tréfonds de la conscience ou de l'inconscient, est encore compliqué par les relations entre les personnages. Bah, par exemple, il y a un passage assez amusant, parce que c'est aussi un jeu méta-littéraire, c'est l'histoire du cas de Musatti.
Oui.
Quand Joséphine est en train de lire, parce qu'elle passe son temps à lire hein, sur le bateau, comme elle ne travaille pas sur le bateau, elle lit beaucoup. Et donc, à un moment, elle révèle à Marek qu'elle est en train de lire le cas de Musatti. Et Marek, il a une espèce d'obsession. Il se croit poursuivi par la malédiction polaque, hein, du cas de Polak. Et donc, il y a tout un jeu sur ce cas qui saisit Marek quand il apprend qu'elle est en train de lire ce fameux livre de Musatti. Et donc, il s'intéresse au livre, du coup. Et ça étonne beaucoup Joséphine parce qu'elle a catalogué Marek comme le mécanicien brut de décoffrage. Voilà. Et donc, que le mécanicien eût manifesté un intérêt pour son livre avait d'abord troublé positivement l'idée qu'elle se faisait de lui parce qu'elle ne l'imaginait pas du tout dans la peau d'un lecteur. Mais à présent, elle se demandait comme à son habitude, il avait essayé de la provoquer ou si elle-même l'avait découragée par une attitude vaguement supérieure. Le regard sévère de sa grand-mère passa sur elle comme le jour où, trouvant la vieille femme en train de feuilleter un volume de Sartre qui figurait au programme de terminale, elle avait dit « Tu ne vas rien y comprendre, mamie ». Le regard avait été cinglant. « Ah, parce que tu crois que ceux qui s'usent les mains au travail ne peuvent pas avoir la tête pleine ? Fais bien attention, jeune fille. » Voilà. Donc il y a aussi cette dénonciation des préjugés ou des illusions qu'on se fait les uns sur les autres à essayer d'étiqueter trop vite, hein. D'étiqueter trop vite en fonction peut-être de critères aussi trop extérieurs et surtout économiques.
Oui, mais il est beaucoup question de toute façon de hiérarchie dans le texte. Hiérarchie à l'intérieur du bateau, hein, puisque c'est comme ça que ça se passe, mais hiérarchie des nationalités. Du coup, ça renvoie le clandestin au plus bas, évidemment, mais hiérarchie aussi sociale, intellectuelle et autres, effectivement, puisque les passagers sont des lecteurs. Il vaut mieux aimer lire quand on voyage à bord d'un cargo, par contre. Mais donc, en général, je pense qu'il y a pas mal de lecteurs à bord. Mais oui. Et c'est vrai qu'a priori, on a tous ce truc qu'a priori, même un chef mécano qui est loin d'être un imbécile, parce que je vous garantis que quand on rentre dans la salle des machines, on se sent un peu nul, soi-même, face à ce qu'il a à gérer. Mais le fait est que malgré tout, l'a priori est là, je crois, chez la plupart des gens.
Oui, tout à fait. Il y a effectivement cette hiérarchie qui est très présente et peut-être de plus en plus présente dans nos sociétés mondialisées.
Oui, en plus, oui.
Où on l'a dit tout à l'heure, hein, l'avidité du gain et puis la nécessité aussi de gagner sa vie pour certains oblige à revoir finalement la véritable hiérarchie qui est celle de l'homme et des choses. Parce que c'est tout l'enjeu du livre, hein, encore une fois. Hein. C'est l'humain qui devrait primer sur tout ce qui est matériel. Or, ce n'est pas évident du tout.
Non, hein, non jusqu'au pas bout, du tout.
Voilà. Alors, il y a aussi le personnage du clandestin qui, lui, n'est jamais envisagé de l'intérieur. Hein. On projette sur lui une certaine intériorité, on imagine ce que peut-être il pense, mais c'est toujours indirect. Et donc, il y a un personnage qui est comme une espèce de pierre noire. Hein, oui. Opaque,
c'est le trou.
Secret, le trou noir, le voilà. Trou. D'autant plus dense hein, qu'il est.
C'est-à-dire que c'est un parti pris. Hein. Je savais dès le départ que je ne traiterais pas son point de vue. Oui. Puisque traiter le point de vue du clandestin, c'est une autre histoire. C'est pourquoi, comment on quitte un lieu par désespoir, par pour survivre, enfin il y a plein de raisons à ça, mais ça n'était pas l'histoire que je voulais raconter. Donc son point de vue aurait desservi, je pense, mon propos. Voilà. Donc il est ce trou là entre béant. C'est un peu, enfin, il est un peu comme l'eau d'ailleurs. Il leur envoie, c'est leur reflet qui voit, ouais, tout à fait. Oui. D'autant qu'ils sont, d'autant, enfin, c'est le sentiment que j'ai, d'autant qu'ils lui ressemblent sans doute tous les trois plus qu'ils ne croient.
Oui,
en réalité.
Ils sont aussi à la poursuite.
Ils sont quand même tous les trois dans la fuite,
voilà.
Une forme de fuite.
Et d'espoir aussi.
Et bien sûr, ils pensent qu'ils vont arriver quelque part, enfin d'où le titre.
Et en même temps de solitude.
Hein. Tout à
fait. Chacun sa solitude. Et finalement, aucune confidence ne marche, ni à distance entre le capitaine et son épouse qui est restée à terre, ni entre à bord. Hein. Il n'y a pas de confidence possible. Hein. Il y a juste cette solitude et dont le lecteur, lui, évidemment, est maître du jeu.
Tout à fait. Merci à tous d'être venus.
Merci beaucoup.